Bonjour à tous, nous sommes en direct depuis le Salon du Livre Paris qui vient d'ouvrir ses portes. La foule en délire est devant nous. Non, je plaisante, le salon vient d'ouvrir ses portes. Donc la foule n'est pas encore présente, mais elle va venir. Car aujourd'hui, comme chaque année, tous les humains évidemment sont les bienvenus dans ce Salon du Livre. Et exceptionnellement, aujourd'hui, les chiens aussi. À notre micro du moins, grâce au philosophe Marc Alizard.
Avoir un chien, c'est avoir un ange. Le mien était un basset. Il avait la joie grave et profonde de Droupi, le corps lourd et dense des divinités de la terre. J'étais allé le chercher dans les montagnes qui entourent Aurillac, parce que j'avais vu sur internet qu'un chien curieusement nommé Martin Luther y était né. C'était l'année des M. J'avais voulu y voir un signe, et je ne m'étais pas trompé. Le peu de temps qu'il a vécu a marqué un tournant dans ma vie. Il m'a ouvert les portes de cette nature qu'en pauvre matérialiste j'opposais à l'esprit, mais aussi de cet esprit qu'en pauvre intellectuel je ne comprenais pas comme désir. Il m'a ouvert au sens plein du mystère, de l'unité de la pensée et de l'être, qui est l'autre nom du mystère d'Éleusis. Il a partagé avec moi le secret de sa joie, si bien que je sais maintenant ne plus avoir peur des anges nouveaux qu'il nous revient d'être à notre tour.
Bonjour Marc Alizard.
Bonjour Alain.
Bienvenue à ce micro en direct depuis le Salon du Livre. Je disais que les chiens étaient les bienvenus cette année, on les entend, les chiens chanteurs. C'est aussi votre chien Martin Luther. Vous venez de lire un extrait qui se trouve à la fin de votre livre, qui lui s'appelle « Chien au pluriel », dans la collection Perspectives Critiques aux éditions PUF. C'est ce récit très émouvant que vous faites de ce chien qui n'est plus, qui était le point de départ de ce livre, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'est ça. J'ai eu le bonheur d'avoir un chien et le malheur de le perdre, hein, et ça m'a plongé dans une grande mélancolie en fait que je m'attendais pas à connaître même de manière générale et qui a duré longtemps, aussi bien que pour le premier anniversaire de sa mort, j'ai ressenti le besoin de mettre des mots sur ce qui s'était passé entre nous et peut-être à vrai dire même pas encore d'écrire un livre mais de lui écrire une lettre. Et j'ai commencé à prendre des notes sur les chiens et à découvrir en fait combien il y avait de choses à dire en fait et combien c'était passionnant effectivement, à quel point cette histoire méritait peut-être d'être racontée. Ouais.
Oui, parce que ce livre est bien plus que l'histoire entre votre chien et vous-même. Il s'inscrit dans la lignée des précédents. Vous êtes l'auteur, pour ceux qui connaissent peut-être, un pop théologique qui est paru en 2015, Informatique céleste, dont vous étiez venu parler à ce micro l'an dernier. Et là, on vous retrouve avec cet ouvrage qui lui aussi fonctionne à la fois de manière très narrative. Vous racontez des histoires et puis vous tirez toujours de ces histoires des réflexions philosophiques au sens propre du terme. Et on découvre en vous lisant que le chien, bien plus qu'un animal, est aussi une réalité qui a été très peu explorée par quiconque d'ailleurs, par les philosophes, mais aussi enfin, par personne d'ailleurs.
Il y a une grande injustice qui est faite au chien. Il est évident que c'est un animal merveilleux avec lequel on vit. Je crois qu'il y a 7 millions de chiens en France, et ça date pas d'hier. Hein. On pense que ça fait à peu près 300 000 ans que les chiens sont parmi nous. On sait qu'ils nous ont aidés à chasser. On sait que peut-être sans les chiens même, on serait pas là pour en parler. On s'attendrait à trouver du coup des monuments aux chiens absolument gigantesques dans toutes les villes de France ou du monde. Et qu'à la place du lion de Belfort, il y ait le chien de Poitiers, enfin je ne sais pas, des choses comme ça. Qu'il y ait des grandes œuvres d'art, des grands romans sur les chiens, que des pays aient pris le chien pour emblème, comme il y a l'ours pour la Russie, le coq gaulois, le lion anglais, ou il pourrait y avoir le chien espagnol. Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a aucun pays qui a le chien pour emblème. Alors les baleines ont Moby Dick, les chats ont le chat perché, le chat beauté, le chat du Cheshire, voilà, y a les apôtres sont le lion, le bœuf, l'aigle, Et le chien est nulle part à trouver, si ce n'est quand dans des œuvres. Alors, il y a des œuvres sublimes avec des chiens, le chien de Giacometti, le chien de Goya. Virginia Woolf a écrit un petit livre sur les chiens, mais enfin, ça reste des œuvres anecdotiques, souvent dans la carrière de ces artistes. Et puis, il y a surtout beaucoup de chiens pour enfants, en fait. Rudyard Kipling a écrit un livre merveilleux sur deux chiens qui s'appelle Bot et Savate, que je conseille à tous les gens qui ont des enfants. S'ils ne connaissent pas ce livre, il est absolument merveilleux.
Aux enfants ou aux parents?
Aux deux. D'accord. Moi, je le lis avec bonheur. Et je pense qu'on peut le lire aux enfants. Enfin, Rudyard Kipling avait adoré les chiens. Il avait écrit ce livre pour les enfants.
Vous expliquez cette absence des chiens dans un imaginaire noble? C'est parce qu'il est indigne.
C'est ça. C'est même pas une absence. C'est-à-dire que quand on en parle, en plus, on a tendance à le ridiculiser un petit peu. Dans la culture populaire, vous avez des chiens comme Rantanplan, qui est un chien qu'on connaît bien.
Par sa bêtise.
Vous avez Goofy, vous avez Pluto, vous avez. Scooby-Doo, ce sont des chiens très drôles, mais enfin bon, quand même pas remarquables par leurs différents talents intellectuels. Vous avez des chiens qui sont alors là carrément traités de lâches. Hein, c'est la fable de La Fontaine, le loup et le chien. C'est l'histoire d'un loup qui rencontre un chien. Et le chien, lui fait l'éloge de sa vie, bien nourri, confortable. Et puis le loup regarde à son cou et il voit une trace qui est la trace de son collier. Et en gros, bon, le loup lui dit « Oui, mais enfin, t'as vendu ta liberté pour un plat de lentilles. » Donc t'es plus.
Entre le loup et le chien, c'est toujours le loup qui gagne dans l'imaginaire.
C'est-à-dire que si vous regardez les philosophes, effectivement, vous avez plus de loups. Les meutes de loups ont fasciné Deleuze, moins les meutes de chiens. C'est le cas de le dire. Enfin, on en parlera peut-être. Mais le loup et le Freud disait le chien est un loup castré, par exemple. Bon, quand même. Et là, on entre dans quelque chose de différent, qui est ce qu'on appelle l'anthropocentrisme, c'est-à-dire une projection de fantasmes humains sur cet animal qui n'a strictement rien demandé. En gros, l'association inconsciente qui est faite sur le chien, c'est que c'est une association inconsciente qui est faite sur le fait d'être sauvage. Le fait d'être sauvage, c'est bien. Le fait d'être sauvage, c'est être fort, c'est être libre, être viril. Vous avez fait une série sur la virilité. Alors, le chien qui n'est pas sauvage, qui est domestique...
Il manque peut-être de virilité.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cette projection, elle nous emmène à penser que le chien est peut-être du côté de la passivité, de la soumission, éventuellement du féminin, autre anthropocentrisme incroyable. Le chien se retrouve même alors à devenir impur. L'animal impur dans la Bible, dans différentes religions, l'insulte, chien, un temps de chien, un mal de chien, une vie de chien, enfin voilà, c'est le tableau général.
On va aller encore plus loin dans ce tableau, atteignons le degré maximum de la dégradation du chien, avec Gilles Deleuze, qui aimait beaucoup les animaux, qui aimait beaucoup les bêtes, mais il affirme à Claire Parnet dans l'ABCDR que le chien, eh bien, c'est la honte du règne animal, écoutez.
Les chats, les chiens. Le problème, c'est que ce sont des animaux familiers et familiaux. Et c'est vrai que les animaux familiers ou familiaux, qu'ils soient apprivoisés, domestiqués, j'aime pas. Qu'est-ce qui m'est déplaisant? J'aime pas les frotteurs, déjà. Un chat passe son temps à se frotter contre vous. J'aime pas ça. Un chien, c'est autre chose. Alors, ce que je reproche fondamentalement au chien, c'est d'aboyer, quoi. L'aboiement m'apparaît vraiment, mais le cri le plus stupide, quoi. Dieu qui a des cris dans la nature, il y a une variété de cris. Ben, l'aboiement, c'est vraiment la honte du règne animal, quoi. Je supporte mieux, à condition que ce soit pas trop longtemps, le cri, je sais pas comment on dit, le hurlement à la lune, ça. Un chien qui hurle à la lune, je supporte mieux que l'aboiement. Mais en même temps, ce que je dis, c'est complètement idiot, parce que les gens qui aiment vraiment les chats et les chiens ont évidemment un rapport avec les chiens et les chats qui n'est pas humain. L'important, c'est d'avoir un rapport animal avec l'animal. Ce que je ne supporte pas, c'est le rapport humain avec l'animal.
France Culture Les Chemins de la Philosophie. Nous sommes en direct depuis le Salon du Livre qui a ouvert ses portes il y a quelques minutes. Vous êtes tous les bienvenus pour assister à cette émission avec le philosophe Marc Alizart qui nous parle de chiens. Aujourd'hui, l'on vient d'entendre la voix de Gilles Deleuze qui qualifie l'aboiement comme étant le cri le plus stupide de l'animalité. Quand on entend le cri là, du chien de Moondog, on se dit que c'est pas si stupide quand même, Marc Alizart.
Non, en plus, c'est un morceau de Moondog absolument merveilleux. C'est qui s'inspire des chants indiens qui font aux chiens une place chamanique très importante.
Comment vous expliquez ce dénigrement par Deleuze du chien ?
D'abord, il m'attriste, parce que j'adore Deleuze. Et vous l'avez dit, Deleuze a beaucoup fait pour les animaux, hein, énormément, à une époque où on parlait beaucoup moins d'animaux. C'était très original, en fait, de faire autant pour les animaux. Qu'est-ce que Deleuze a fait particulièrement ? Il nous a permis de comprendre qu'on ne pouvait pas classer, en quelque sorte, les animaux par rapport aux hommes. Hein. On dit aujourd'hui qu'il n'y a pas un arbre de la vie, mais un buisson du vivant, par exemple, hein, et que les animaux ont chacun leur monde. Les loups ont leur monde, leur manière de voir le monde, et au fond, elle est équivalente, ou en tout cas, on peut pas la comparer, la hiérarchiser avec celle de l'homme. Et ça, c'est une très très belle idée, évidemment. Mais on comprend très bien pourquoi Deleuze, du coup, n'aime pas le chien ou le chat. Et il le dit lui-même. Alors, il le dit, mais il le dit pas. Il dit, j'aime pas les gens qui ont un rapport humain aux animaux, hein. C'est-à-dire qu'il conteste ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'anthropocentrisme, hein. Il conteste la projection anthropocentriste. Mais en fait, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il n'aime pas non plus les animaux qui ont un rapport humain aux hommes. Parce qu'au fond, ce qui dérange Deleuze, c'est que le chien ne rentre pas dans sa case, ou dans sa niche. Enfin, le chien, en gros, c'est quoi ? C'est un animal qui, lui, franchit son groupe, qui refuse de rester un animal, en quelque sorte, qui est allé chercher les hommes. Et qui se plaît dans la compagnie des hommes.
Bah, il est allé chercher les hommes, ou c'est les hommes qui sont allés le chercher ?
Ça, on pourra peut-être en...
Oui, parce que c'est pas la même chose, justement.
On pourra peut-être en rediscuter. Moi, mon hypothèse, c'est qu'il est allé chercher les hommes, plutôt qu'on est allé le chercher. Et quand bien même, à vrai dire, le fait qu'il se plaise en notre compagnie, le fait que le chien ne soit pas un animal dépressif, comme les animaux de zoo, quand il est enfermé, mais qu'il, au contraire, conçoit du fait d'avoir un maître une forme de joie, en fait, étrange, hein, un peu mystérieuse, tente à brouiller les frontières entre l'humain et l'animal. Et alors, Deleuze aurait pu avoir le choix devant le chien de se dire bah, peut-être que le modèle que j'ai de l'animal n'est pas bon, puisque le chien témoigne du fait qu'il y a dans l'animalité une pulsion vers l'humain. Et puis, bah, c'est le contraire qu'il a fait. Il a décidé que c'était le chien qu'il fallait évincer, en quelque sorte, de la philosophie. Et ça, je pense que c'est vraiment une erreur. Je pense que le chien, et précisément l'intérêt du chien, est de nous inviter à une pensée, non seulement de la nature, mais au fond même de la philosophie, beaucoup plus ouverte et au fond beaucoup plus deleuzienne, où les choses circulent. Et ça, c'est quelque chose que nos ancêtres avaient extrêmement bien compris. Et j'ai voulu commencer le livre en rappelant ces choses-là. D'emblée, le chien dans les cultures antiques, et quand je parle des cultures antiques, je pourrais parler des cultures paléolithiques, c'est un animal qui est à la jointure des mondes. Ils ont très très bien compris cette nature instable du chien. Alors, on le voit à travers plusieurs choses. D'abord, le chien est associé à Sirius, de toute antiquité. Sirius, c'est l'étoile la plus brillante de la galaxie, et c'est dire déjà l'importance que le chien peut avoir, hein, c'est pas n'importe quelle étoile, et c'est aussi celle qui annonce très grosse chaleur, les canicules. Canicule, ça veut dire petite chienne, hein, et c'est une étoile, hein, du coup ambiguë, elle apporte la lumière et elle apporte aussi la sécheresse. Et cette instabilité du chien, elle est au cœur de cette première pensée très, très, très ancienne qu'il inscrit même dans les étoiles. Hein. Ce qui est d'ailleurs très drôle parce que vous savez qu'il y a une constellation du chien, Canis Major. Il y a aussi Canis Minor qui est juste à côté de la constellation du chasseur, Orion. Et donc, ça veut dire que finalement, pendant des centaines de milliers d'années, on a été dominé par un chien au-dessus de nos têtes, c'est littéralement. Ça, ouais. Et ce chien accompagne un chasseur depuis le début de l'humanité. L'homme se représente au ciel sous la forme d'un chasseur accompagné d'un chien. Et il y a des représentations paléolithiques de chasseurs avec leur chien. Et puis alors ensuite, vous avez cette chose qui est quand même mieux connue et qui corrige un peu ce que j'ai dit au début sur la représentation du chien, qui sont les dieux chiens, hein, ou les déesses chiennes. On en reparlera sans doute aussi parce que c'est plutôt au féminin que ça se joue, mais bon, si je cite Anubis, par exemple, tout le monde a en tête le dieu de la mort égyptien, qui a lui-même un corps double, hein, un corps d'homme avec une tête de chien, parce qu'il a été décapité, on lui a collé une tête de chien, parfois on dirait une tête de chacal, moi je pense que c'est plutôt un podenco, qui est un chien primitif qu'on retrouve encore aujourd'hui. Et alors Anubis, c'est qui? C'est pas exactement le dieu de la mort, j'ai été trop vite, c'est plutôt Osiris, le dieu de la mort, c'est le dieu passeur, c'est le dieu qui accueille les morts, qui les prépare, qui les lave,
qui embaume le corps des défunts,
et qui leur permet de passer la mort. Vous avez Cerbère, évidemment, qui est le dieu qui garde aussi l'entrée, dieu des seuils, dieu des passages. Hein, c'est une figure
qui est la porte des enfers.
Figure symétrique possible, absolument. Vous avez d'autres chiens comme Isis avec Anubis. On sait moins que Isis est aussi la grande chienne. Kalabhairava en Inde, qui la déesse de la mort, qui est toujours avec un chien à ses pieds. Enfin, c'est quelque chose d'assez régulier, d'assez universel.
Jusqu'au, vous dites, tout bascule avec le monothéisme.
Oui, mais d'abord, il faut comprendre ce qui se passe, c'est que pourquoi est-ce que le chien est passeur? Parce que ils avaient bien compris que le chien avait un pied dans la culture et un pied dans la nature. Donc, il était le passeur des polarités dialectiques. C'est pas seulement la vie et la mort, c'est aussi le soleil qui va le dieu aztèque Xolotl, c'est le dieu des jumeaux. Donc c'est le dieu de tout ce qui est symétrique. Donc c'est effectivement ce qui se passe avec le monothéisme est assez frappant. On ne sait pas très bien pourquoi le monothéisme supplante un jour le polythéisme en Égypte autour d'Akhenaton, mais enfin on sait en tout cas d'une chose, c'est que il va mettre un peu d'ordre dans ce bazar, quoi. Les passeurs, les demi-dieux, les chiens hommes, enfin tout ça c'est quand même un petit peu compliqué. Alors on va tout centraliser, c'est le premier centralisateur en fait. Il y aura un seul dieu et puis il y aura en face des créatures, les hommes, et puis sous les hommes il y aura d'une certaine manière les chiens. Les chiens perdent leur pouvoir, ils ne passent plus rien du tout, ils sont juste...
ils sont plus au ciel mais à nos pieds.
Alors c'est toute la question, parce qu'en fait moi je crois qu'il y a un retour du refoulé dans le monothéisme, il y a un retour du chien, parce que la seule manière pour Dieu d'exercer son emprise, c'est de se faire chien, parce que lui doit devenir passeur. Lui doit être le passeur entre les vivants et les morts, entre l'éternité et le fini. Et ce retour du refoulé du chien, vous le voyez à certains endroits, alors très, très, très mystérieux. Il y a une légende que j'aime beaucoup, qui accompagne par exemple Saint-Christophe. Saint-Christophe, c'est le Christophore, c'est le porteur du Christ. Il le prend sur ses épaules pour lui faire traverser une rivière. Et là, vous retrouvez l'imaginaire de la rivière, de l'eau, du passage, des enfers. Donc, c'est un imaginaire un peu païen, déjà. Et alors, dans certaines légendes, Saint-Christophe, il a une tête de chien. C'est un cynocéphale. Les cynocéphales, c'était des espèces de loups-garous d'avant. Ils faisaient très, très peur aux gens. Et on pensait qu'il hantait les campagnes. Et puis, le Christ n'a pas peur de ce cynocéphale. Et donc, le cynocéphale, ce géant, le prend sur ses épaules pour le remercier. Et le Christ, à son tour pour le remercier, décide de le transformer en homme. Et en quelque sorte, de lire. Je pense que c'est un mythe, enfin, c'est une légende qui vise aussi à expliquer comment les chacals sont devenus des chiens. Comment est-ce qu'un animal sauvage est devenu effectivement domestique? Donc cette idée qu'il y a au cœur du christianisme ce chien païen, qu'on peut même éventuellement retrouver dans le baptiste, hein, qui est aussi décapité. Mmh. Ces histoires de décapitation sont très curieuses. Vous avez aussi dans l'Exode, dans la Bible, un passage que Emmanuel Lévinas a commenté, qui est très étrange, où les Hébreux sortent d'Égypte, ils sont poursuivis par la milice égyptienne, et puis ils passent devant des chiens. Alors si les chiens aboient, ils vont être donnés à la milice. Et les chiens n'aboient pas.
Comme complices.
Qu'est-ce qui s'est reconnu de l'un dans l'autre?
Mais bon, ces histoires existent telles qu'elles sont racontées par les hommes. Vous posiez la question de l'anthropocentrisme, c'est-à-dire que finalement tout ce que vous dites sur l'imaginaire associé aux chiens, c'est toujours l'imaginaire de l'homme. Est-ce que l'histoire des chiens, y compris dans l'évolution, puisque vous y accordez une place dans votre ouvrage à cette coévolution entre l'homme et le chien, n'est pas toujours l'histoire telle que l'homme se la raconte pour lui-même?
Les chiens n'ont pas la parole encore pour nous dire comment ils ont vu les choses.
Du coup, il est très difficile de penser comment le statut du chien change autrement que pour nous. Et du coup, ce chien n'est ni complètement sauvage, vous l'avez dit, ni complètement humain. Il est entre les deux. Et finalement, l'histoire du chien est l'histoire de notre humanité par rapport à la domesticité, non?
Oui, pour autant qu'on ait une histoire avec la domesticité. Parce que quand vous dites « notre humanité », vous faites comme si elle était préconstituée. et éventuellement même préconstitués avant les chiens. Mais c'est le contraire. C'est-à-dire, les hommes étaient des animaux. Les hommes sont sortis du règne animal. Les hommes sont des animaux qui se sont mis debout. Donc, l'homme ne se préexiste pas à lui-même dans le règne animal. Il y avait des loups avant qu'il y ait des hommes. Et il y a eu des loups pendant qu'il y avait des hommes. Et il y a eu des chiens en même temps qu'il y avait des hommes. Et que les hommes se formaient et sortaient eux-mêmes. J'ai dit que le chien apparaissait, on pense. Alors, il y a vraiment des débats. Hein. De manière optimiste, on dit en général 45 000 ans. Et puis il y a certains maximalistes dont j'aime être qui disent 300 000 ans. 300 000 ans, c'est le moment où Homo sapiens et Néandertal commencent à se former tout juste. La thèse qu'on peut imaginer, c'est une thèse que Donna Haraway a beaucoup défendue.
Qui est Donna Haraway ?
La philosophe Donna Haraway, c'est une philosophe féministe. Qui d'ailleurs s'en prend beaucoup à Deleuze. Hein. Elle dit il n'est pas anthropocentriste, effectivement, Deleuze, il est phallocentriste. Donc, bon, voilà, mais je ferme la parenthèse. Et Donna Haraway a écrit un livre, elle s'est fait connaître avec un livre sur les cyborgs, hein, sur les robots, les hommes robots. Et on a été très surpris, je crois, dans le milieu de la philosophie, de découvrir qu'elle avait aussi une passion dévorante pour les chiens, notamment pour sa chienne, Cayenne. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Le Manifeste pour les espèces de compagnie, qui parle beaucoup d'une autre possibilité qui est de la coévolution de l'homme et du chien.
Comment mettre de l'ordre dans tout ça ? Canidé, hominidé, animal domestique, professeur, chienne, femme, animal, humain, athlète, entraîneur. L'une est identifiée à l'aide d'une puce électronique implantée sous le cou. L'autre a un permis de conduire californien en guise de carte d'identité. L'une possède des documents retraçant ses ancêtres sur 20 générations. L'autre ignore le nom de ses grands-parents. L'une, produit d'un vaste mélange génétique, est considérée comme blanche. Chacun de ces termes désigne un discours racial dont nous héritons toutes les deux des conséquences à même la chair. Je suis certaine que nos génomes sont plus proches qu'ils ne devraient l'être. Qu'importe si nous sommes deux femelles infertiles, l'une en vertu de son âge, l'autre suite à une intervention chirurgicale. Les codes du vivant contiennent certainement une trace moléculaire de notre contact qui laissera son empreinte dans le monde. Sa langue souple et agile de berger australien, rouge merle, a nettoyé les tissus de mes amygdales et tous leurs avis de récepteurs immunitaires. Qui sait jusqu'où mes récepteurs chimiques ont transporté ces messages, ou ce qu'elle-même a emprunté à mon système cellulaire pour distinguer le soi de l'autre et joindre le dehors au dedans. Nous avons tenu des conversations illicites. Nous avons entretenu des rapports oraux. Nous sommes contraintes de raconter une histoire après l'autre à l'aide des seuls faits. Nous nous dressons l'une l'autre à accomplir des actes de communication que nous maîtrisons à peine. Nous sommes, constitutivement, des espèces de compagnie.
Valse du petit chien de Chopin sur France Culture, les chemins de la philosophie. Nous sommes en direct depuis le salon du livre où le public nombreux est en train de danser sur cette valse, tourbillonne autour de moi. On ne voit plus les livres tellement le monde est présent. Chers auditeurs, derrière votre poste, il faut vous imaginer ce qui est en train de se passer grâce à vous, Marc Alizard, qui est en studio, donc en studio improvisé ici au salon du livre pour parler de votre livre Chien au pluriel. On a entendu donc ce texte, alors ce texte très émouvant et aussi très problématique, hein, quand même, de Donna Haraway, Manifeste des espèces de compagnie, qui se demande quelle est vraiment la différence entre nous autres, êtres humains, et les chiens, et se demande si finalement nous ne sommes pas tous des espèces de compagnie. C'est troublant comme questionnement.
Le point de départ de Donna Haraway, c'est celui que j'ai décrit, hein, c'est-à-dire c'est celui de partir du principe que l'homme n'est pas une essence qui est constituée. Elle s'est constituée, hein. C'est une dynamique, c'est un processus, un processus qui s'ancre donc par définition dans la nature, hein, et dans la nature animale. Et ce qu'elle suggère, donc, c'est qu'il y a une coévolution des espèces, qu'il n'y a pas de pureté des espèces. Toutes les espèces sont en quelque sorte mélangées, alors sous plusieurs modalités, parasitaires parfois ou symbiotiques. Alors, elle s'inspire beaucoup d'un spécialiste des chiens remarquable, si les gens veulent poursuivre cette compréhension de ce que c'est que le chien du point de vue de l'évolution. Je leur recommande le livre de Stéphane Budiansky, qui s'appelle « La vérité sur les chiens ». Alors, Stéphane Budiansky adore les chiens, et il dit ne vous méprenez pas sur mes intentions, j'adore les chiens, mais le chien est un parasite extraordinaire. Voilà. Bon, alors on est un petit peu surpris dans la préface, et il explique en gros que le chien s'est détaché des loups et a trouvé dans le confort des campements humains, des premiers campements d'Homo sapiens, de quoi manger et de quoi éventuellement être réchauffé, et qu'il a développé des facultés tout à fait extraordinaires pour maintenir cet avantage. C'est-à-dire que dans le point de vue de Darwin, il n'y a pas de déclin évolutionniste. Quand on quitte les loups, ce n'est pas pour devenir un sous-loup ou un mi-loup, pour parler comme Tintin. Hein, on devient autre chose et on trouve dans une nouvelle niche écologique de quoi se sustenter. Alors c'est ça que font les chiens. Et alors Budiansky raconte des choses très étonnantes sur le fait, par exemple, que les chiens ont appris à ne plus retrousser leurs babines en arrière comme le font les loups, parce qu'ils ont compris que ça faisait peur aux hommes. Donc ils se sont rendus en fait un peu imbéciles, voyez, ils jouent un peu les imbéciles parce qu'ils comprennent très bien que nous on aime ça, mais ils ne le sont pas du tout. Ils sont extrêmement malins. Et il y a une autre chose qui est extraordinaire chez les chiens, c'est le seul animal à faire ça dans tout le règne animal, il est capable de lire notre regard. Alors qu'est-ce que ça veut dire lire notre regard? Ça veut dire que, vous savez, on a un petit bout blanc dans l'œil qui s'appelle la sclérotique. On est la seule espèce à avoir ce regard directionnel. C'est un avantage évolutionniste aussi que nous avons conçu, parce que si je regarde dans votre direction et que je vois que vous regardez ailleurs, je peux lire votre regard, il y a peut-être un animal ou un prédateur qui est dans cette direction, donc je l'anticipe et je tourne moi-même la tête.
Juste une foule.
Les chiens sont capables de faire ça aussi. Ça veut dire qu'ils nous ont quand même très très bien regardés et qu'ils nous ont regardés dans le blanc des yeux, si j'ose dire. Donc, cette relation, elle se constitue comme ça, mais elle va devenir beaucoup plus puissante, elle va devenir réellement symbiotique au moment où les hommes aussi comprennent que les chiens peuvent leur apporter beaucoup de choses, et notamment les éloigner des loups. Les chiens forment des meutes de chiens. Les chiens errants font d'ailleurs encore très peur, hein, quand ils sont encore féraux, quand ils sont encore sauvages, pour autant qu'un chien puisse être sauvage, vraiment. Mais ils ont cette capacité, une fois qu'ils ont déterminé un territoire, à en chasser les prédateurs. Alors, on sait, et ça c'est Vinciane Després qui raconte ça aussi très bien.
La philosophe Vinciane Després.
Oui, passionnante sur ce sujet aussi, qui a beaucoup lu Donna Haraway et qui en parle très très bien. Et on sait aussi qu'on a même partagé des aires cérébrales. Parce que, comme je vous dis, c'est sur des dizaines de milliers d'années que ces choses-là se font. Alors, on sait par exemple que le chien a repris des zones autour de la vigilance, par exemple, hein, de l'éveil. Et que nous, elles ont pu rétrécir dans notre propre cortex, dans notre néocortex, qui a pu du coup développer d'autres facultés. Vous voyez, quelque chose qui me plaît beaucoup de penser, c'est que on retrouve vraiment les premiers ossements de chiens dans les grottes autour de 35-40 000 ans. On retrouve, donc on sait à ce moment-là vraiment qu'il y a une connexion. Parfois, ils sont même enterrés avec les hommes. Et c'est le moment où on commence à peindre. C'est le moment où on trouve les premières peintures pariétales, comme si, au fond, libéré du devoir de se protéger, libéré de la vigilance, quelque chose de l'ordre de la créativité avait pu advenir, quelque chose de l'ordre du temps libre.
Mais alors, tout ça ne nous dit pas comment, et c'était notre point de départ, comment s'est installée cette espèce de mépris, peut-être, pour le chien. Vous dites dans votre livre, Marc Alizard, non, vraiment, le fait que le chien puisse avoir un maître et seul parmi les animaux éprouver de l'amour pour sa servitude paraît indéfendable. La joie du chien, sa jouissance, est en ce sens non seulement une énigme, mais une sorte de scandale. Elle choque l'idée qu'on peut se faire d'une dignité qui devrait se fonder sur le mérite, le labeur de l'intelligence et l'effort de la liberté.
Alors d'abord, au point où on en est, on peut dire que c'est une erreur, déjà, de le penser. Le chien n'est pas soumis à son maître. Le chien l'invente, on vient de le voir. Et pour autant qu'on puisse parler d'une soumission, moi j'ai plutôt envie de dire qu'il est soumis comme un parent peut l'être à ses enfants. Je suis très attaché à l'idée que les animaux, et les chiens en particulier, ne sont pas nos enfants. C'est évidemment pas des jouets, pas des meubles, etc. Mais c'est même pas des enfants. On appelle souvent son chien mon bébé. Moi-même, parfois, j'y cède. Hein. Je suis coupable. Mais au sens propre, si on descend du singe, et en l'occurrence, moi, je pense qu'on descend du chien, c'est bien nos parents. Et on peut faire une expérience. C'est une expérience que j'invite les auditeurs à faire, s'ils ont des chiens ou des chats. C'est de les appeler papa, ou mon petit papa, plutôt, ou ma petite maman.
Qu'est-ce que ça change ?
Ben, vous allez voir, c'est très étrange, parce que tout d'un coup, vous imaginez que cet animal, lui-même, ne se dit pas « Oh, qu'est-ce qu'il fait mon papa ? Où est-ce qu'il m'emmène ?» Mais qu'est-ce que fait encore mon enfant ? Je comprends rien à cet enfant, mais bon, je l'aime.
C'est-à-dire,
voyez,
oui.
C'est deux soumissions totalement différentes.
Donc c'est lui qui prendrait soin de nous, en fait. Retrouverait le rôle du chien qui est là pour garder son territoire,
lui qui prend, c'est évidemment lui qui prend, j'allais dire chien de nous. Mmh. Oui. Mais oui, c'est évidemment le chien qui prend soin de nous. Et les chiens sont très protecteurs, et très protecteurs pour cette raison, qu'ils ont cette mission de faire en sorte que leur maître, celui qui leur apporte nourriture et confort, se porte bien.
Donc c'est par orgueil que nous les taxons d'imbécilité ?
Non, c'est pour une autre raison, je pense, qui est plus secrète et plus honteuse. Et là, je rejoindrai Deleuze pour le coup. Je crois qu'elle a trait à des histoires plus souterraines, ténébreuses et, disons-le, sexuelles. Je pense qu'il faut rentrer plus profondément dans la chiennerie pour comprendre.
Est-ce que c'est le moment où les auditeurs de moins de 18 ans doivent s'éloigner du poste ?
Oui, je le recommande si jamais on rentre dans ces histoires-là.
Ça dépend de vous. Comment ça ? Alors, c'est-à-dire qu'il y aurait une pensée qui serait plus psychanalytique du rapport au chien. Vous dites que c'est notre père, ça va même au-delà de ça.
Oui, mais la gueule des chiens fait très peur. Et la gueule des chiens, c'est évidemment l'endroit par où passe aussi la castration. Hein, et j'ai dit qu'il y avait une forme d'anthropocentrisme dans l'idée que le chien était un animal féminisé parce qu'il serait passif, etc. Mais, ou bien, j'ai cité Freud sur le loup castré, c'est quelque chose qui apparaît très très fortement. Le chien est victime de ce préjugé-là, hein, et de finalement de ce qu'on pourrait éventuellement lui reprocher de faire à notre propre virilité. Et d'avoir mordu à un endroit où il n'aurait peut-être pas dû mordre, par exemple, ou de pouvoir le faire. Pour rentrer là-dedans, il faut accepter de se plonger dans des vieux mystères de l'Antiquité, parce que l'Antiquité avait très très bien compris qu'il y avait aussi un autre chien sous le chien, un chien plus mystérieux. Dans deux mythes, notamment que je raconte, dont je raconte l'histoire à propos aussi de Mais peut-être qu'on peut écouter Kafka, non ?
Parce que Kafka va vous aider à plonger dans les sphères obscures de la
chaînerie. C'est une très bonne manière de rentrer dans ce sujet.
Très bien. Et alors, voici Kafka, enfin Kafka ou le chien narrateur, qui sait ? Écoutez, c'est Jacques Gamblin qui lit le texte.
Quel changement dans ma vie ! Et pourtant, comme ma vie, au fond, a peu changé. Quand je pense aujourd'hui au passé, et que je me remémore les temps où je vivais encore au milieu de la société canine, un chien parmi les chiens, participant à tous les soucis des autres, je trouve, en regardant de plus près, que de tout temps, quelque chose boitait. Il y avait une petite fêlure. Un léger malaise s'emparait de moi au cours des cérémonies les plus vénérables de notre peuple, et parfois même dans mon milieu familier. Non, cela n'était même pas exceptionnel, cela se produisait souvent. Le simple spectacle d'un congénère chien qui m'était cher pouvait, vu en quelque sorte d'un autre œil, m'emplir d'embarras, de frayeur, de désarroi et même de désespoir. J'essayais de me raisonner, des amis à qui je me confiais se portaient à mon aide. Puis venaient des temps plus paisibles, des temps où les surprises de cette sorte ne manquaient assurément pas, mais où je les accueillais plus flegmatiquement au reste de ma vie. Elle pouvait peut-être provoquer en moi de la tristesse ou de la lassitude, mais elle me laissait telle que j'étais. Un chien peut-être un peu froid, réservé, anxieux, calculateur, mais tout bien pesé, malgré tout, un chien normal. Comment eussé-je pu, d'ailleurs, sans ces périodes de détente, atteindre l'âge avancé dont je jouis aujourd'hui ? Comment eussé-je pu acquérir la sérénité avec laquelle je considère les effrois de ma jeunesse et avec laquelle je supporte les effrois de la vieillesse ?
Les recherches d'un chien de Franz Kafka est une des dernières nouvelles de l'auteur écrite en 1922 qui restait inachevée. On peut y voir une représentation personnelle de Kafka dans la peau d'un chien. En tout cas, celui-ci décrit sa rencontre avec d'autres chiens et dresse le portrait de ce qu'on pourrait appeler une espèce de communauté canine solidaire.
Oui, il y a beaucoup de choses. Quand vous m'avez demandé si je voulais écouter un texte en particulier, j'avais ce texte de Kafka en tête parce qu'il a été important dans la rencontre avec les grands textes quand même qui existent sur les chiens. Et celui-ci en vraiment en fait partie. C'est un des plus grands textes écrits. Kafka en général est celui qui a le mieux fait parler les animaux. Et il fait parler le chien merveilleusement dans un langage évidemment kafkaïen. Hein, il revient sur lui-même, etc. Et puis vous avez vu, il est extrêmement, il se sent. C'est un chien kafkaïen aussi dans le sens où il se sent coupable. Évidemment, tous les personnages de Kafka sont coupables. Ce chien est coupable. Alors il est coupable de quelque chose, mais il ne sait pas de quoi, évidemment, hein, comme chez Kafka. Et il enquête. Et il enquête. Il est convaincu que les chiens savent quelque chose, qu'ils possèdent un très très grand secret. Et ce secret est tellement honteux, pour revenir à ce dont on parlait, qu'ils ne peuvent pas le dire. Au fond, l'hypothèse de Kafka sur le fait que les chiens n'ont pas la parole, enfin, on peut dire qu'il leur manque la parole. Non, non, ils ont la parole, mais ils ne veulent pas parler. C'est très différent. Mmh. Ils en savent trop long. Alors, il enquête, et puis, alors, sur son chemin, il rencontre ce qu'il appelle des chiens musiciens, qui dansent sur deux pattes. Qui marche sur deux pattes. Et ça le fascine. Il est convaincu qu'il y a un lien entre sa culpabilité, le secret, et le fait de marcher sur deux pattes. Et ça ne peut que nous inspirer que Kafka, en fait, dans ce texte, parle d'un mythe très, très célèbre, qui est le mythe d'Œdipe. Œdipe aussi est coupable, il cherche la raison de sa culpabilité, il enquête, et quand il enquête, il tombe sur un chien. Une chienne, en l'occurrence, la sphinge. Hein, la sphinge, ce n'est pas un lion, c'est un chien, c'est la fille d'Orthos qui est le frère de Cerbère. Donc, c'est la nièce de Cerbère.
Voilà,
hein, comme les chiens ne font pas des chats, on est sûr que c'est un chien. Donc il tombe sur un chien, et alors ce chien, cette chienne, lui pose une énigme qui est qui marche à quatre pattes le matin, à deux pattes à midi et à trois pattes le soir. Et Œdipe a la réponse à cette question, qui est un peu comme celle du chien de Kafka, avec ses chiens musiciens. Et il répond, c'est l'homme. Mais au fond, le chien de Kafka aurait pu répondre, c'est le chien. Quatre pattes, deux pattes quand il fait le chien musicien, et puis trois pattes quand il claudique. Il voit aussi un chien à trois pattes à la fin de la... Moi, ma conviction, c'est que le mythe d'Œdipe est un mythe sur l'hominisation. Et nos ancêtres avaient bien compris que ce qui sépare les animaux des hommes, c'est qu'ils marchent sur deux pattes, mais ils ne savaient pas très bien pourquoi et comment on s'était mis sur deux pattes. Pourquoi est-ce que je pense ça? Je pense que même Œdipe est un chien, lui-même, et un chien qui s'est mis justement debout. Je pense que c'est le premier chien qui s'est mis debout, c'est le premier homme. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que non seulement donc, il rencontre un chien, la sphinge, mais on sait son nom, Œdipe, hein, Œdipe, Oedipus, ça veut dire qu'il y a un œdème au pied. Pourquoi il a un œdème au pied, Œdipe? Parce que le berger qui l'a amené sur le mont Citéron être tué quand Jocaste a découvert qu'il allait être parricide et incestueux, lui a passé une cordelette dans la cheville. Et alors, c'est très très mystérieux qu'on passe des cordelettes dans les chevilles des enfants pour les traîner sur des montagnes. J'en ai pas de précédent, mais je sais qu'il y a une manière très cruelle d'attacher les chiens parfois, qui consiste à leur mettre une petite bague, et alors passer une cordelette dans le tarse pour qu'ils ne tirent pas avec leurs pattes sur leur chaîne. Et on a des traces de ça. Et on peut se dire que Œdipe est en fait un chien qui a été attaché. Et on sait aussi, et ça c'est un jeu de mots sur Œdipus, qu'il a le savoir des pieds. Il a, grâce à ce pied mutilé, il a le savoir des pieds. Donc il a le savoir de la station debout. Quelque sorte. Et c'est comme ça qu'il résout cette énigme. Mais alors, pourquoi il a le savoir de la station debout? Et pourquoi est-ce que ce pied mutilé est la clé de ça? Je pense que pour le comprendre, il faut faire justement s'attacher à son histoire personnelle, qui est incestueux et parricide. Donc, c'est un rapport avec le sexe. On sait que pied et sexe, souvent, c'est un peu mélangé.
Ah bon?
Et qu'il a peut-être... Bah, prendre son pied.
Oui, il y a d'autres façons que le sexe de prendre son pied, mais certes, je vous le concède.
Mais voilà, vous savez que sphinge aussi, l'étymologie sphinx, c'est sphincter, hein, c'est le verrou. Et on peut se dire qu'au fond, en se mettant debout aussi, il bande. Parce que ça aussi, ça se met debout, d'une certaine manière, et d'une manière un peu mystérieuse. Mais alors, il n'avait pas échappé non plus à nos ancêtres qu'une autre séparation entre l'homme et l'animal tient à une petite baguette. Vous savez que dans l'énigme de la sphinxe, si elle marche à trois pattes à la fin de sa vie, c'est parce qu'on a une canne. Cette petite baguette s'appelle le baculum. C'est la petite baguette qui est dans le pénis des animaux. Les chiens ont un baculum, les hommes n'en ont pas. Et c'est quand même très très mystérieux de se dire, est-ce que ça pourrait être lié ? Est-ce que la disparition de la baguette ici pourrait avoir permis à la baguette, en quelque sorte, là-bas, d'en réapparaître ? Et ça, c'est une autre histoire qui nous le raconte, une histoire d'inceste et de parricide, d'une certaine manière, ou de castration, je disais, la gueule des chiens. Et c'est une histoire qu'on racontait, alors on ne la racontait pas à la radio, hein. On ne la racontait pas comme ça entre nous, on la racontait après des semaines d'initiation uniquement à des initiés extrêmement, des prêtres, etc. On la racontait notamment à Éleusis, mais on la racontait probablement aussi en Égypte. Et cette histoire, c'est la plus vieille histoire de l'humanité ou la plus vieille histoire de l'origine de l'humanité.
Donc vous avez un public très attentif là, prêt à être dépositaire de cette histoire.
Alors voilà, au commencement des temps, il n'y avait pas d'hommes, il n'y avait que des animaux. Et des dieux, et peut-être des dieux animaux. Bon, on ne sait pas très bien. Un dieu, le dieu de la mort, est tombé fou amoureux d'une chienne. La grande chienne cosmique, hein, Isis, Canis Major, Perséphone en l'occurrence. Hadès est tombé amoureux de Perséphone. Et il l'a emmenée aux enfers. Et là-bas, il l'a violentée, il l'a violée. Et cette grande chienne s'est évidemment retournée. Et de rage, elle a mordu à son sexe. Elle lui a arraché le baculum. En l'arrachant, elle a en quelque sorte avalé la baguette qui tenait le sexe du dieu de la mort debout. Et c'est elle qui s'est en quelque sorte mise debout. Elle a été mise debout par la puissance du pénis primitif, cosmique, galactique, je ne sais pas comment on va dire ça, qui lui, du coup, est devenu mutilé, un peu flasque. Et c'est surtout son enfant, c'est l'enfant de cette union hiérogamique qui est l'homme. Horus, l'enfant d'Isis et d'Osiris, Osiris le dieu de la mort, Isis la grande chienne, Horus est le fondateur de la civilisation, c'est le premier pharaon. Dionysos, fils de Perséphone et d'Hadès, c'est le fondateur aussi, dans quelque sorte, de l'humanité, c'est le deux fois né. Et cette histoire, c'est que, au fond, ces enfants, pourquoi est-ce qu'ils se sont mis debout ? Parce qu'ils ont bu à la gueule du chien le sang du pénis divin. Et ça nous ramène à quelque chose qui est très très lié au monde des chiens, et je vous disais qu'on arrivait dans des endroits plus ténébreux, qui est le lien du chien à la lune et aux règles. Le loup-garou sort quand il y a la pleine lune, parce que la lune, c'est les règles, et les règles, c'est le sang de la castration primitive qui coule de la gueule du chien. Et donc, dans les mystères d'Éleusis, on buvait probablement une coupe de sang de règles, qui était mélangé avec de l'ergot de seigle, qui était une sorte de, qui créait une sorte de MDMA, et on avait des hallucinations, et ça expliquait un autre grand mystère de l'humanité, qui était pourquoi est-ce que les femmes ne sont fertiles que quand elles ont leurs règles, qui ressemble plutôt à une blessure, a priori on pourrait penser que c'est le contraire, elles sont fertiles parce que justement ce sang, c'est le sang de cette espèce de phallus du dieu de la mort.
Donc, si je vous suis bien, est-ce que ça veut dire que le chien serait l'espèce de préhistoire de notre propre sexualité ?
Alors ça, c'est Freud qui dit ça. Freud a beaucoup... Quand Freud pense au complexe d'Œdipe, il pense aussi à la scène primitive, et il écrit dans L'homme au loup... Freud adorait les chiens. Hein. Il écrit dans L'homme au loup que c'est l'homme au chien, en fait, l'homme au loup. Mmh. L'homme au loup, il est terrifié par les loups, parce qu'en fait... pense Freud, et Freud commence à le découvrir au moment où il écrit. C'est extraordinaire quand je disais qu'on raconte pas cette histoire-là à une table avec un micro. Je veux dire, quand Freud le découvre lui-même, il n'écrit que par double négation. Je suis contraint de penser que j'ai pas d'autre option que d'imaginer que. Que quoi ? Que le petit enfant se forme un inconscient en voyant son père et sa mère, ou en fantasmant son père et sa mère copulant, c'est-à-dire... C'est ce que dit Pascal Quignard, c'est-à-dire que la seule image qu'on n'a pas, c'est celle de notre naissance, c'est la plus bizarre, c'est pour ça qu'on appelle ça la scène primitive. Et cette image est impensable. Et Freud dit, l'enfant doit imaginer que ça se passe comme avec des chiens, c'est-à-dire comme les animaux qu'il voit dans la cour, copulant. Donc, atergo more ferrarum, par derrière, comme font les animaux, en latin. Et alors, il est tout à fait stupéfait et inquiet par cette idée, mais enfin, il l'assume. Et c'est ça le lien chez Freud entre l'inconscient. Moi, ça m'amène à dire que l'inconscient est un chien. Qu'est-ce qui se passe? Le petit enfant voit ou fantasme cette scène, ne peut pas l'imaginer. Il a l'impression que c'est une scène de castration, qu'il y a de la souffrance, et se crève les yeux, comme dit, en quelque sorte, ou plutôt se castre lui-même. Et c'est comme ça qu'il devient un homme, parce que c'est en même temps ça qui le met debout. C'est d'avoir un inconscient qui le met debout. Et ça, c'est le chien que j'appelle le chien en nous. Le chien, ce chien loup-garou qu'on va retrouver alors dans plein d'autres mythologies dont j'ai pas du tout parlé, qui sont les mythologies du chien noir.
Mais attendez, si l'inconscient est un chien, comment expliquez-vous qu'on veuille vivre avec lui? Parce que le principe de l'inconscient, c'est justement qu'il nous pose problème.
Mais vous comprenez
pourquoi qu'on veuille le nourrir et qu'on veuille le caresser.
Mais vous comprenez pourquoi on veut le caresser? Ça, on comprend très bien.
Justement, non. Ce n'est pas alors chacun son inconscient. Bon, enfin, la proximité de l'inconscient, elle est recherchée uniquement quand on est en paix avec lui-même.
Non, ce qu'on comprend, c'est pourquoi est-ce qu'il est refoulé. Parce que cette scène primitive, c'est la scène du refoulement originaire. C'est la scène qu'on ne peut pas voir. Le chien est à la fois en nous, partout, il est ce qu'on a de plus proche, et en même temps, il est ce qu'on ne peut pas dire.
Oui, mais l'inconscient, c'est l'inverse du domestique. Justement, le chien est un animal qu'on dit domestique.
Mais non, mais l'inconscient...
L'inconscient est en nous, mais on n'est pas... Justement.
Oui, on ne peut pas domestiquer l'inconscient, mais lui nous domestique peut-être, alors.
Donc on en revient à ce que vous dites, il faut considérer le chien lui-même comme notre père,
oui.
Donc comme presque un surmoi.
Oui, oui. Non, c'est ce qu'on a de plus... Et c'est même pas qu'on a coévolué avec le chien. Le chien est en nous. On est effectivement des chiens qui se sont mis debout. Et je crois que ça explique beaucoup de choses dans notre rapport compliqué aux chiens. Et je parlais des chiens noirs. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup parce qu'il y a quand même des chiens. Mais en fait, partout où les chiens sont, on ne dit pas que ce sont des chiens. Le petit chaperon rouge. Un loup déguisé en grand-mère. Qu'est-ce que ça peut être d'autre qu'un chien? Un loup déguisé en grand-mère, un loup qui ressemble à une grand-mère. Pourquoi est-ce qu'on ouvrirait la porte? Pourquoi est-ce que le petit chaperon rouge rentre dans cette maison où il y a un loup déguisé en grand-mère? Parce qu'en fait, il pense que c'est un chien. Il pense que c'est un chien-chien. Et donc, il se met au lit avec ce... Elle se met au lit. Je dis il parce que bon, moi, je crois que c'est un garçon, mais elle se met au lit. Et alors, il y a dans certaines... Géraldine Mona Savoie, je crois, disait...
Géraldine Mona Savoie, ouais.
Elle racontait...
Elle parlait de
Xavier Gauthier, qui a écrit un livre sur les chiens aussi, où j'ai appris une chose extraordinaire. C'est que dans certains récits du petit chaperon rouge, le petit chaperon rouge, au début, le loup déguisé en grand-mère, donc le chien lui dit qu'il faut qu'elle se restaure. Et qu'il y a à manger dans le placard. Et il y a à manger dans le placard le sang de sa grand-mère, du boudin. Donc elle va manger du sang. C'est quand même très, très étrange qu'on raconte. Donc voilà. Je sais que ça peut choquer des oreilles
sensibles. Là, sont devant
mais
vous,
il faut imaginer un inconscient très primitif et fantasmatique où toutes ces choses se mélangent. Vous avez aussi Dracula. Dracula qui se nourrit de sang. Et bien, Conan Doyle a eu le génie de faire apparaître Dracula comme un chien. Au début du livre. Et ce chien saute d'un navire qui s'appelle le Déméter. Déméter, c'est la déesse de la fertilité, qui est celle qui va libérer justement Perséphone, la grande chienne, de la tutelle et de la domination d'Hadès qui l'a raptée aux enfers. Alors ça, c'est quand même des histoires extraordinaires.
Alors, toutes ces histoires, on les trouve dans votre livre, un chien, Marc Alizart. Une dernière question, avant qu'on se quitte avec des aboiements sublimes, évidemment. Comment expliquez-vous, si vous pouvez l'expliquer, cette espèce de mode du chien quand même? Je veux dire, vous écrivez un livre sur les chiens, vous n'êtes pas le seul, on a reçu d'autres livres qui portent sur ce même thème. Il y a le film de Samuel Benchetrit, en ce moment, chien aussi, qui porte cette question.
Merveilleux film.
Est-ce que c'est parce que c'est l'année du chien dans l'astrologie chinoise ou est-ce que c'est un hasard?
Écoutez, je crois que le chien l'intérêt qu'on peut porter au chien est en proportion inverse du déclin des maîtres que nous sommes. Je pense que le modèle du maître a vieilli, le modèle du maître est en train de mourir, on n'a pas su bien faire quelque chose de notre maîtrise, et tout en témoigne, le monde nous échappe, et je crois que c'est l'occasion du coup de se penser que peut-être on s'est trompé sur un certain nombre de choses, et que le chien, qui est effectivement l'inverse, si possible, de la maîtrise, est peut-être celui qui a la clé de ce qui pourrait nous permettre de nous survivre à nous-mêmes.
Ouais. Et donc, il faudrait essayer d'aller chercher cette clé dans le chien ou le laisser comme unique dépositaire de cette clé?
Non, je crois qu'il faut devenir des chiens. Je crois, comme dans le film de Samuel Benchetrit, je crois qu'il faut reconnaître de nouveau que le chien n'est pas un animal impur et qu'on est puni dans notre réincarnation si on est réincarné comme un chien, mais qu'on est au contraire sanctifié comme un bienheureux. Il y a plein de saints qui ont voulu être des chiens. Saint-Dominique, les Dominicains, c'est les Dominicanis, les chiens de Dieu. Henri Suzeau aussi, un chien, c'est un saint, mais un chien, c'est un chien merveilleux, un saint merveilleux. Je crois que les chiens sont des saints et qu'on va le découvrir de plus en plus.
Bon, donc devenons chiens, mais d'abord lâchons les chiens.
Who let the dogs out? Who?
Was nice, the party was pumping.
Hey-ya.
And everybody having a ball.
Ha,
until the fellas start the name calling.
E-P-I-O.
And the girls respond to the call. Ha, I have a poor one shout ha, out.
Who let the dogs out?
Gonna tell myself I'm man, no get angry.
Hey, yeah, E-P-I-O.
Two Eddie girls calling them canine. Hey,
E-P-I-O.
But they tell me, hey man, part of the party.
E-P-I-O.
You put a woman in front and a man behind. I have a woman shout out.
Who let the dogs out?
Et voilà, tout le monde danse, chien compris. Un grand merci à vous, Marc Alizard, d'être venu parler de votre livre aujourd'hui. Chien au pluriel, c'est le titre de ce livre qu'on trouve aux éditions PUF. Merci au public nombreux qui a assisté à cette émission qui n'est pas finie. Car vous l'avez vu, auditeurs chanceux qui êtes présents aujourd'hui au Salon du Livre, Géraldine Mosna-Savoie est entrée en studio. C'est l'heure du journal de la philo.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Donc vous l'aurez entendu, vous qui êtes derrière votre poste, nous sommes au Salon du Livre, alors vous avez choisi de nous parler d'écriture.
Et oui, je me suis faufilée entre vous deux, entre vous et Marc Alizard. Comment représenter le réel? C'est la question que s'est posée la peinture face à la photographie et au cinéma au XXe siècle, en ce début de XXIe siècle et avec le numérique. La question concerne désormais la littérature. Comment écrire sans écriture? Comment écrire à l'âge numérique où la création, avec tous ces textes, ces messages, ces copier-coller qui pullulent en ligne et en réseau, n'a plus lieu d'être? Comment écrire à cet âge où la figure d'un auteur seul à son bureau, dont le geste consiste à tracer des lettres sur une feuille, n'a plus lieu d'être non plus? Eh bien, réponse avec le professeur et poète américain Kenneth Goldsmith dans cet essai tout juste traduit en français, L'essai sans écriture, du langage à l'ère numérique. Et en quatre exemples, tendez l'oreille.
Ni san, it san, ni ni san, it san san, it san, it san, ni it ni it ni, it ni san, ni it ni san, ni ni san san, ni san ni it san, it san, it san san san, it ni.
Est-ce que ça vous dit quelque chose ce son, Adèle?
Alors non, rien du tout. Mais comme je viens de découvrir qu'en fait j'étais un chien, je sais plus quoi penser.
Ah d'accord, ok. Alors c'est le poète japonais Shigeru Matsui à qui l'on doit ses purs poèmes. En fait, ce sont des codes, écoutez bien, alphanumériques binaires qu'on trouve en informatique. Et c'est un premier exemple pour répondre à la question « Comment écrire sans écriture ?» Eh bien, en fait, en n'étant pas du tout créatif. Alors certes, ça fait longtemps que l'auteur tout-puissant est battu en brèche avec les ready-made, les collages et les samples. Mais dans l'écriture, qu'on la critique ou pas, qu'il s'agisse de Platon, qui la voyait comme le tombon de la mémoire, ou de Derrida, qui en faisait la trace de sa grammatologie, une idée persiste. Celle du créateur qui écrit une œuvre originale, unique et transmissible. Or, ce qui compte ici, pour Kenneth Goldsmith, ce n'est plus qui parle et ce qu'il dit, premier ou pas, original ou pas, mais la manière dont cela est dit, construit, conçu, faisant du génie une sorte de programmeur web.
À l'acceptation béate de ce qui existe, peut aussi se joindre comme une même chose la révolte purement spectaculaire. Ceci traduit ce simple fait que l'insatisfaction elle-même est devenue une marchandise dès que l'abondance économique s'est trouvée capable d'étendre sa production jusqu'au traitement d'une telle matière première.
Alors parfois, écoutez Guy Debord, on peut se demander ce qui distingue son ton monotone d'un code informatique. En ça, il préfigure d'ailleurs cette nouvelle écriture sans écriture, celle où l'auteur importe moins que le texte, celle aussi où le sens originel importe moins que le réagencement, la reprise, la relecture et que le détournement dont il fait l'objet. C'est la deuxième réponse à comment écrire sans écriture, en abandonnant certes le geste premier de la formation des phrases, mais pas la manipulation de ces mêmes phrases. Debord proposait de dévier de nos chemins connus, et c'est bien ce qui se passe aujourd'hui avec, par exemple, je vous en cite quelques exemples, la dérive du chef-d'œuvre de Kerouac sur la route, redactylographié intégralement sur un blog, avec aussi le détournement des pires résultats de requêtes Google, ou encore avec ce mot rouge que l'on fait dérailler.
Rouge, rouge, rouge.
Il n'est que veine, il n'est que veine, il n'est que veine, il n'est que sang, il n'est que sang, il n'est que chair.
Rouge, 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 rouge.
Alors ce n'est pas du Frédéric Chopin, c'est du Henri Chopin. C'est le troisième exemple que l'écriture sans écriture, c'est non seulement de la reprise sans auteur, du détournement sans un sens définitif, puis c'est aussi un dépouillement. Loin de là le contenu original, propre et premier, et le contenu tout court d'ailleurs, peu importe qu'il s'agisse du mot rouge, peu importe son sens, l'idée est d'en entendre la texture et les tensions, le contexte où il émerge et qui révèle cette matière tendue. Écrire sans écrire, c'est ainsi accorder toute son importance non plus à ce qui est dit, mais au dire lui-même, non plus au contenu, mais au contexte.
Ah bah j'y vais alors. Hein. Mabillon, 19 mai 1978, il est 10h-20. Le temps est pluvieux, la circulation est plutôt fluide, la plupart des gens ont leur parapluie ouvert. Je vois devant moi l'amorce de la rue du Four, la portion du boulevard Saint-Germain comprise entre Mabillon et Saint-Germain-des-Prés, et en tournant un peu la tête, la rue de Bussy.
Enfin, dernier exemple, Georges Perec et sa tentative d'épuisement d'un lieu parisien pour répondre à ce nouveau projet « Comment écrire sans écriture ?». Kenneth Goldsmith le cite dans son essai « Enfin » pour révéler la fécondité de l'ordinaire, traitement de texte, base de données, identité cryptée. Vous pensiez recopier, répéter, plagier, vous pensiez engluer dans le quotidien d'une écriture non créative, eh bien vous en sortez pourtant renouvelé.
Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Et je pense que vous pouvez applaudir Géraldine, vous qui êtes présent, on vous entendra. Merci beaucoup.
Et je signale juste que c'est l'écriture sans écriture du langage à l'âge numérique, c'est aux éditions Jean Boite édition, il faut le lire, de Kenneth Goldsmith.
C'est noté. Un grand merci à Isis Jourda qui a préparé cette émission et dont le prénom a été cité plusieurs fois au cours de cette émission. Force des choses oblige. Merci aussi à Marianne Chassor, David Pargamin, Maud Markiewicz, Géraldine Bosna-Savoie bien sûr, Nicolas Berger qui a réalisé cette semaine avec aujourd'hui l'équipe technique nombreuse pour assurer ce direct ainsi que celui des prochaines émissions à venir aujourd'hui et ce week-end en direct du Salon du Livre. C'est Benoît Chapon, Élise Le, Tanguy Le Corneau et Emmanuel Morse-Duncan. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle série qui sera une série de philosophie et de poésie. Rimbaud, le poète Arthur Rimbaud, en tant que philosophe, sera à l'honneur la semaine prochaine. On parlera d'une saison en enfer, des illuminations, du bateau ivre évidemment, et beaucoup d'autres poèmes. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez la réécouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez.